Bonjour et bonsoir, vous écoutez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Je suis Nicolas en compagnie de...
Johnny.
François.
Et François qui remplace Farouko, et c'est pour ça qu'on n'a pas de thème.
Et voilà, ça arrive des choses comme ça des fois.
Non, mais Farouko, il a pris ses premières vacances depuis pas le début de l'émission, parce qu'au début c'était DJ Moquette, mais... Donc, voilà, on lui envoie un beau bye-bye. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, d'abord, il y a le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui est sorti en conférence de presse mercredi sur le dossier du patron Saint-Vincent-de-Paul. On a une entrevue avec Marc Boutin. On parlait aussi d'une tournée qui est organisée par l'UCL et donc aussi par le collectif qui organise cette émission, qui produit cette émission, tournée Usine sans patron. Quelques disparitions dans le mouvement révolutionnaire français et, pour ma part, un reportage aussi sur les grèves de sans-papiers en France pour la régularisation de tout ce monde-là. Mais évidemment, je suis pas tout seul, il y a d'autres gens qui ont du contenu aussi.
Je vais vous parler du syndicat des journalistes de Journal de Montréal qui ont été coupables d'une accusation d'outrage au tribunal, puis aussi de Staline qui a été reconnu coupable de génocide.
Sauf erreur, on a aussi un superbe PPP. Effectivement. Mais avant d'aller plus loin et de passer en musique, on voulait prendre de quelques instants quand même pour dédier cette émission-là. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais pour la dédier quand même à tous les camarades ici à la station, aussi tous les auditeurs, toutes les auditrices qui en fait sont actuellement très dans l'angoisse parce qu'ils sont pas capables de rejoindre leurs proches en Haïti. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'on avait une pensée pour vous en ces moments qui sont relativement difficiles. Je sais que c'est ce qu'on fait sur les ondes de toutes les stations, mais quand même, je voulais juste le souligner. On va passer en fait tout de suite avec une nouvelle, j'imagine. On va y aller avec un syndicat. T'as une nouvelle syndicale, finalement, Jenny.
OK. C'est le syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal, les dirigeants ainsi que la CSN, qui ont été coupables, jeudi dernier, d'une accusation d'outrage au tribunal, parce que le 22 juillet dernier, ils ont contrevenu à une ordonnance une ordonnance leur interdisait d'être sur les locaux, d'entrer dans les locaux du Journal de Montréal, d'être sur le terrain aussi. Donc, ils avaient forcé la... On pénétrait de force dans l'indélicieuse quotidien, ça, le 22 juillet dernier. Puis, c'est les syndiqués en lockout qui avaient accédé de force dans la salle de réaction du quotidien. Puis, ça avait mené à une courte occupation des lieux qui avait été houleuse. Puis, ça contrevenait à une ordonnance du juge Michel Caron, datée du 26 juin, qui interdit aux travailleurs en lockout de se trouver à l'intérieur ou sur le terrain d'étude du journal. La reconnaissance de la culpabilité a été enregistrée devant la juge Anne-Marie Tran de la Cour supérieure. Puis ça, elle pourrait imposer des peines maximales de 50 000 $ et un an de prison pour les individus qui ont participé à l'action. Et on parle aussi des amendes maximales de 50 000 $ pour les organisations.
Mais on n'a pas encore le jugement.
Non.
D'accord. Il faut reconnaître tout de même, effectivement, ils plaident coupables parce que de fait, ils l'ont fait, ils sont rentrés sur les lieux. Mais c'est tout de même un cas douteux dans la mesure où le syndicalisme est tellement encadré aujourd'hui que ces gens-là sont en l'accord depuis un an puis ils n'ont pas le droit, en fait, d'appliquer des moyens de pression qui seraient efficaces, évidemment. Donc, une fois de temps en temps, la vapeur fait sauter le couvercle. Donc, voilà. Est-ce que... Oui, ben on va en faire une dernière, tant qu'à faire. C'est notre bloc à ce niveau-là. Puis après ça, on va pouvoir s'en aller à la musique et revenir avec une entrevue. Donc, voilà, l'Union communiste libertaire, en fait, l'UCL, qui est l'organisation à laquelle le collectif Anarchiste la nuit appartient, qui organise une tournée pan-québécoise de conférences en janvier et février. Ça commence le 18 janvier, en fait. Tournée Usine sans patron, la réponse des classes populaires argentines à la crise économique de décembre 2001. En fait, c'est tout simplement, en ce moment, on traverse une des pires crises économiques de l'histoire du capitalisme et les réponses fournies par l'État et c'est la caisse sont illusoires. En plus, face à cette impasse-là, les dirigeants tentent de faire porter tout le fardeau de la crise aux travailleurs et aux travailleuses, que ce soit via des pertes d'emplois, via des fermetures d'usines ou via tout le débat sur la tarification, par exemple, qu'on vit actuellement. Il va y avoir le 20 janvier une espèce de sommet, de charrette avec le patronat et les syndicats sur comment ils vont réussir à, à boucler les finances publiques et relancer l'économie québécoise. Puis ben nous, dans ce contexte-là, on se disait comment est-ce qu'on peut répondre autrement à cette crise économique-là, comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'expériences de luttes qui se sont passées ailleurs dans le monde.
Est-ce qu'ils vont faire comme au sommet avec Lucien Bouchard en 80, des années 90?
Non, ça c'est trop péquiste.
Okay.
En fait, il organisait une rencontre avec son comité de pilotage de l'économie. Donc, essentiellement, ça va être qui? Ça va être les dirigeants de certaines centrales syndicales qui ont un lien là, direct dans l'économie, soit, en fait, essentiellement la CSN, la FTQ, et peut-être quelques autres dirigeants syndicaux, le patronat, et des gens, là, bon, des économistes réputés, puis des hauts fonctionnaires là, de la Caisse de dépôt et de placement, par exemple, et tout. Ça va avoir lieu à Lévis, les 20 et 21 janvier. D'ailleurs, il risque d'avoir des manifestations à ce sujet. Mais c'est sûr que c'est pas de là que va sortir des solutions intéressantes sur la crise. À l'origine, Jean Charest voulait faire un sommet. Mais en fait, non, il appelle pas ça un sommet. Un sommet, c'est péquiste, ça, c'est Lucien Bouchard. Lui, il appelle ça un forum. Donc, comme le forum des générations, mais il voulait faire un forum, en fait, sur l'état dramatique des finances publiques. C'était supposé de porter là-dessus, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire?
Le remboursement de la dette et tout ça, là.
Ah, ouais, pour s'en aller, là, se diriger tranquillement pas vite vers un budget en mars qui sera sans doute douloureux. Donc, vous voulez préparer les ouailles à ça. Et puis, ben, comme le débat sur les finances publiques est pas super bien engagé, puis que finalement, c'est pas toujours une super bonne affaire de parler de ça, parce que quand on parle de ça, on parle aussi de corruption, puis ce genre de choses-là, ben, il a décidé de parler en général de l'économie. Et ça arrange bien, en fait, disons-le, ça arrange bien, par exemple, des organismes comme la FTQ, qui dit, ben là, les signes de reprise, ils sont pas tangibles, puis si on se met tout de suite à jouer dans les finances publiques, ben, il y aura plus d'argent pour les infrastructures, puis c'est plus d'argent pour les infrastructures, ben, en tout cas, ça va mettre notre monde au chômage et tout, puis c'est pas le temps. Et donc, nous, face à ça, on se disait, ben, il faudrait peut-être trouver d'autres choses. Fait que pour réfléchir à ça, on organise cet hiver une tournée de conférences sur la réponse des classes populaires argentines face à la grave crise économique qui a secoué le pays au début des années 2000. Je sais pas si on s'en souvient, là, tout le système bancaire d'Argentine s'était effondré. Les classes moyennes avaient perdu l'ensemble de leurs économies. Ça s'était passé. C'était comme pas mal pire que ce qui se passe ici, mais ça avait suscité une grogne et des réponses populaires très intéressante, entre autres tout le mouvement là, des que se vayan todo, puis les qu'ils s'en aillent tous, et ils sont passés
occupation d'usine et tout là.
Ouais, occupation d'usine, les carcéleros, puis et tout. Donc du 18 janvier au 12 février, il va y avoir un militant anarchiste de Red Libertaria Buenos Aires qui va se promener un peu partout au Québec, en Ontario, pour nous entretenir sur ce sujet-là. Il va parler des différentes formes de résistance qui ont été développées par le peuple argentin pour contrer les effets de la crise. Les récupérations d'usines, comme tu disais, la création de coopératives autogérées, etc., et l'implication des libertaires dans ces différentes luttes-là. Donc, la tournée va se promener, va s'arrêter dans plusieurs villes, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on a finalement des dates à Québec. Ça va être au tout début février. Il y a une première conférence qui est prévue dans le cadre des Mardis de l'Anarchie à l'Agité le 2 février à 20h en Basseville. Donc, et il va en avoir une autre aussi sur le campus de l'Université Laval, également le 2 février sur l'heure du midi, en collaboration avec l'Association des étudiants et étudiante de sciences sociales. Les détails sont à venir en ce qui concerne le local et tout. On va reparler là, dans les semaines à venir. Maintenant, on est prêt pour la musique?
Oui, monsieur. Et là, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent. On va aller écouter du Contaré.
Oh boy!
C'est moi qui mène. Alors, c'est là, Farouco, il va sûrement rager, comme Tuco, d'ailleurs, son chien. Il va sûrement rager à cause que je vais faire passer du Contaré. Ça va être un Réal V. Benoît. Est-ce que vous connaissez Réal V. Benoît?
Non.
Réal V. Benoît, jadis connu sous le nom du mineur chantant. Alors, c'était vraiment un mineur de Rouyn-Noranda qui minait. Il avait fait des chansons extrêmement ouvrières, engagées. Et, il est venu récemment.
C'est comme une espèce de Richard Desjardins qui a pas pogné, ça?
Oui, dans ce genre-là, mais plus, encore plus virulent. Là, je l'ai vu récemment à l'agité. Il était vraiment anticapitaliste. Là, c'est vraiment un enragé. Là, ça a l'air de rien, là, comme ça. Et on va écouter une pièce qui s'appelle... Parce que, en fait, je pense que Réal V, il y a une deuxième raison. C'est parce qu'il vient juste de sortir un nouvel album qui s'appelle « Pour vous, mes amis ». Et il m'en a envoyé... j'en ai reçu un aujourd'hui dans ma boîte à mal. Alors, j'ai regardé son album, je l'ai écouté. Puis j'ai dit, bon, finalement, je vais passer une de ces vieilles tunes, finalement. Alors, bon. Ça va être Chris de Pauvre. Oh là là, on est à Voix de Fait, c'est Kaya. Et c'est parti.
Qui t'oblige à payer chaque année les impôts de revenus? Qui est-ce qui a monté contre nous, ces messieurs les curés? qui remplit à chaque jour nos bureaux du bien-être social, qui gaspille à mesure les argents que nous autres on ramasse. C'est les Christophos, les miteux, les galus, les ratés, les cassés de partout. Oui, les Christ de pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ceux qui nous empêchent d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Crie si tu te promènes en arrière en gros char sur la rue, qui se plaint de tout ce qui paraît se passe dans la haute entre nous. Qui est-ce qui reste dans la saleté, veut jamais travailler, espérant quand même jouir de tout ce qu'on donne à nos héritiers. Les miteux, les galeux, les ratés, les cassés de partout. Oui, les Christ de pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ceux qui nous empêchent d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Vas-tu s'assire dans le coin, ben tranquille, sans rien dire? Si pouvais-tu nous laisser en paix une bonne fois ou mourir, on pourrait enfin ce que l'on veut quand on veut tout au moins, sans se préoccuper de plaire ou déplaire à nos voisins. C'est galeux, c'est raté, c'est cassé de partout. Oui, c'est Christ de pauvre, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ceux qui nous empêchent d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Oui, nous empêchent d'être heureux.
Vous écoutez Voix de Fer.
C'est toujours, toujours aussi débile, quoi. Faut vraiment être con militaire pour donner des noms comme ça.
Oui, ben de retour à Voix de Fer sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Alors, mercredi matin, il y avait une conférence de presse au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste sur ben, le thème de l'heure, évidemment, le patron Saint-Vincent-de-Paul.
Oui, puis il y a eu beaucoup de visibilité, hein, ça a marché?
Ben, ça a très bien marché, CKIA était là et ramène d'ailleurs une entrevue qu'on va vous présenter à l'instant.
Ah, la convergence, hein?
Oui, non, c'est très clair que c'est le grain de sel de CKIA qui va faire pencher la balance en faveur du Comité populaire. Non, en fait, tous les acteurs médiatiques importants étaient là, sauf TVA. Mais bon, qui c'est qui écoute TVA? Ouais, personne qui écoute TVA dans la région de Québec, c'est évident.
C'est, c'est juste la poste de télé la plus écoutée nationalement.
Oui, je le sais. Les 10 premières émissions des BBM sont des TVA. Voilà. N'empêche, tout le monde était là, puis ça va se parler, en fait, entre deux tremblements de terre, on devrait avoir un... On devrait en parler dans les médias. Qu'est-ce qui se passe? Ben essentiellement, c'est la réaction officielle du Comité populaire un mois après la sortie là, des esquisses là, du projet d'hôtel sur le site du Patro qui ont été dévoilées le 15 décembre dernier. On se demande bien pourquoi ils ont dévoilé ça le 15 décembre et non pas le 15 novembre. On sait bien que c'est parce que c'était le temps des fêtes. On espérait que le sujet tomberait puis qu'après, au retour des fêtes, on n'en parlerait plus. Ben, le Comité populaire veut en reparler. Ils ont lancé un défi à la administration Labeaume et à Jacques Robitaille. Venez défendre votre projet. Si vous y croyez tant que ça prend un hôtel de 300 places avec 700 places de stationnement, venez le défendre devant l'opinion publique, faites-le dans un débat à la radio, à la télé, ou alors faites des consultations publiques et tout. Et voilà. Donc, il va y avoir des activités là qui vont se passer dans les prochains mois. Le comité de citoyens, visiblement, pas dit son dernier mot. Et puis, ben voilà, moi, j'étais présent à cette conférence de presse et j'en ramène une entrevue qu'on va entendre à l'instant. Mercredi le 13 janvier, il y a le comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui organise une conférence de presse dans ces chics locaux de la rue Sainte-Claire sur l'avenir du patro Saint-Vincent-de-Paul, la population qui doit être entendue. On a avec nous Marc Boutin qui était présent à cette conférence de presse-là. Bonjour.
Oui, bonjour.
Marc Boutin, géographe, qui a vertement critiqué le projet d'hôtel envisagé sur le site de l'ancien patro Saint-Vincent-de-Paul et la position qui est défendue par l'administration de la bombe dans ce dossier. Alors, en fait, vous êtes sorti en conférence de presse, pourquoi?
Bon, on est sorti en conférence de presse parce qu'on considère qu'il y a une étape essentielle que la ville est en train d'escamoter puis d'essayer de faire oublier à tout le monde, c'est l'étape d'un plan d'urbanisme. Avant de faire le développement d'un site aussi important, aussi stratégique, qui fait partie, premièrement, il est stratégique à cause de sa situation spectaculaire à l'entrée de la ville et tout, mais il est aussi stratégique parce qu'il fait partie du patrimoine mondial. Bien, quand on a un site aussi important, puis qu'il y a un développement qui s'annonce, il faut que la ville, son rôle, c'est de faire un plan d'urbanisme, de permettre à la population de s'exprimer, puis de faire ce plan d'urbanisme-là, un plan d'ensemble. Et puis là, il y a plusieurs idées contradictoires qui peuvent se faire valoir sur la place publique. Et puis la ville choisit là-dedans, oui, un plan d'urbanisme que la ville choisit, et ensuite un promoteur vient et s'inscrit à l'intérieur d'un plan qui a été préétabli, prédiscuté, où l'opinion publique a réussi à dire son mot. Actuellement, ce que la ville fait, elle fait une fuite vers l'avant, on s'envoie direct au promoteur, le promoteur fait ce qu'il veut, puis la ville fait tout pour escamoter le débat. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a peur de la réaction du monde? C'est ce qu'on pense, parce que pourquoi? Pourquoi escamoter ce débat-là? Actuellement, la ville a mis sur pied ce qu'on appelle un projet particulier d'urbanisme. Bien, c'est le lieu rêvé pour ce genre de débat-là. C'est fait exprès pour ça. Puis M. Picard, qui est le bras droit du maire Labeaume, a dit que le PPU, le maire y croyait et tout, et que c'était là l'endroit pour s'exprimer. Alors, qu'est-ce que fait le comité populaire Saint-Jean-Baptiste? Bien, il fait justement ce que la ville devrait faire, c'est de présenter un projet d'ensemble. On présente notre projet qu'on trouve qui est très valable. On trouve que c'est une façon de développer le site qui est économiquement rentable et qui est en continuité avec le Faubourg Saint-Jean. Il y a de la place pour de l'administratif, il y a de la place pour du commercial, il y a de la place pour du résidentiel, puis il y a un espace public, il y a une rue, et il y a une terrasse qui longe la falaise. On est prêt à le défendre, ce projet-là, on y croit, mais la ville nous empêche d'avoir un débat. Alors, on lui lance un défi aujourd'hui. Venez donc débattre. Vous le trouvez bon, votre projet? Bien, venez donc le débattre.
Donc, Marc Boutin, là, actuellement, il y a un processus de consultation pour l'avenir de la colline parlementaire,
oui.
Un plan particulier d'urbanisme, qui inclut le site du patro Saint-Vincent-de-Paul. Et là, vous disiez en conférence de presse tout à l'heure que, finalement, la ville fait les choses à l'envers.
Oui, exactement.
C'est-à-dire...
Quelle est la question?
La question, c'est... Il y a déjà été question de ce site-là.
Oui.
Et dans le programme particulier d'urbanisme, qu'est-ce qui ressortait par rapport à ça?
Par rapport à ce site-là?
Oui.
Bien, ce que M. Picard nous a dit, c'est que ce site-là, il n'y aurait pas de développement sur le site. Il n'y aurait pas de décision de prise tant que le PPU ne serait pas complété. C'est-à-dire... Puis le PPU, ça veut dire des consultations publiques. Alors, tant que les consultations publiques n'auraient pas eu lieu... Et que l'opinion publique, c'est-à-dire nous tous, puissions nous exprimer qu'est-ce qu'on voit là, et puis pouvoir choisir entre différents projets. Actuellement, on n'a pas le choix. On est fait placer un projet de promoteur. Tout ce qu'on peut dire, c'est non. Puis là, on nous taxe de quoi? On nous taxe de... On est négatif, de négativisme. Fait que les autres, l'opinion publique, on dit toujours non. Regardons ça s'ils sont plates, ils disent non. Ben oui, mais donnez-nous le choix. Là, on dit pas non, là, on propose quelque chose.
Et dans l'amorce... De consultation qu'il y a eu. Il y a déjà eu un forum qui a été organisé par la ville, il y a des mémoires qui ont été déposées.
Attention, le forum a été organisé par le comité populaire Saint-Jean-Baptiste lui-même.
Oui, mais il y a eu deux forums.
OK, il y a eu deux forums.
Un par la ville au Delta, puis un...
Ah oui, par la ville, c'est le PPU. C'était dans le cadre du projet particulier d'urbanisme. Puis la ville, c'était pas nécessairement sur le projet du patro nécessairement seul. Le forum citoyen, lui, était sur le site du patro.
Et ce qui ressort de ces consultations-là, c'est... C'est pas un, il n'y a pas de consensus sur un hôtel.
Il n'y a pas de consensus, mais il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de consensus sur un hôtel, mais il n'y a pas de consensus nécessairement sur notre projet non plus. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Il y a toutes sortes d'opinions contradictoires. C'est sûr qu'au Forum citoyen, tout le monde, il y avait 80 personnes, ce qui est un succès en soi, mais ces gens-là étaient plutôt de notre côté. Là. Ils étaient peut-être pas unanimes, mais il y en avait qui étaient là pour la critique. Tant mieux, mais je veux dire, la majorité des gens étaient de notre côté. Mais je dis pas que c'est la même chose au dans le cadre du PPU. Là, il y avait vraiment, c'était plus vaste, c'était plus large, il y avait 150 personnes, y compris le promoteur, M. Robitaille, qui y était, qui jouait son rôle de citoyen pour une fois. Mais il n'y avait pas consensus nécessairement ni sur un hôtel, ni sur... Le débat n'avait pas commencé. C'est ce débat-là qu'il faut qu'il y ait lieu. Puis où il va-t-il avoir lieu? Bien là, nous autres, on a lancé un défi au maire. Venez débattre. Venez défendre votre projet. Vous le trouvez bon, votre projet? Venez débattre. On va y aller, nous autres, vous faire face. On va vous critiquer, puis les bons côtés vont ressortir, puis l'opinion publique choisira.
Donc, vous revendiquez encore des consultations publiques?
Bien sûr. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu encore. C'est pas encore des consultations publiques. On veut une consultation publique qui n'a pas encore eu lieu. Le cadre est là, tout est là, les promesses sont là. Avant l'élection, qu'est-ce que M. Picard a dit? Comme j'ai dit tantôt, il n'y aurait rien sur ce site-là tant qu'il n'y a pas de consultation publique. Ça, c'est avant l'élection. Après l'élection, un autre discours. Qu'est-ce que Mme Chantal Gilbert dit? Il faut exproprier. Elle nous donne un énoncé de principe avant l'élection. Après l'élection, elle change d'idée. Ah, le projet est beau. Maire Labeaume lui-même, il dit, il n'y a pas d'hôtel. C'est pas une place pour un hôtel. Après l'élection, on trouve le projet beau. Et tout ce monde-là dit, on a changé d'idée, c'est tout. Avant l'élection, on pensait ça. Maintenant, on pense d'autres choses.
Et si on vient au projet qui a été déposé, on pourrait, en se faisant l'avocat du diable, dire, bon, il y a eu un premier projet qui a été déposé il y a plus d'un an. Sur ce site-là, par le promoteur Jacques Robitaille. Et là, il y a un nouveau projet qui a été déposé le 15 décembre. Et on dit que c'est sur la base de ce projet-là que le débat s'est fait. Puis bon, le maire, il trouve ça bien, bien beau. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce projet?
Bien, le deuxième projet est pire que le premier. Le nombre de stationnements a passé de 300 à 700 autos. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, ce projet-là, il y a une chose qui a disparu, c'est qu'on gardait la façade de l'église, on la tripotait un peu, là. C'est ça qui a disparu. Il n'y a pas de changement dans ce projet-là. Le deuxième projet, il est pire que le premier, par rapport aux critères que nous autres, on a mis de l'avant. Il est pire que le premier. Je vois pas de... Il n'y a aucune... C'est un projet d'hôtel... C'est un hôtel de 300 chambres qui était là avant. C'est encore un hôtel de 300 chambres. C'est encore un hôtel... Un édifice qui tourne le dos à la falaise.
Donc, c'est un projet qui est toujours aussi inacceptable.
Bien, par rapport à celui qu'on a présenté, qu'on considère acceptable, c'est sûr que les critères qu'on a mis de l'avant ne sont absolument pas respectés. C'est de la poudre aux yeux. Pourquoi le maire change d'idée avant ou après? Là, il faudrait qu'il s'explique. Il n'y a aucune raison de changer d'idée.
Et à partir d'aujourd'hui, là, à la mi-janvier, c'est quoi les prochaines étapes pour le comité populaire dans ce dossier-là?
Bien, le comité populaire va faire une activité. Bien, le comité populaire va être obligé de passer à une deuxième vitesse, je pense, si la Ville refuse toujours le débat. Premièrement, on a lancé un défi. Peut-être qu'ils vont accepter. Peut-être qu'ils vont accepter, mais peut-être qu'ils ont peur aussi. Peut-être qu'ils ont peur, puis ils accepteront pas. Mais je veux dire, peut-être que, je ne sais pas, moi, ils veulent pas. Ils veulent étouffer le débat public à tout prix. Ils veulent étouffer le débat public. Bon, ben, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Nous autres, on va occuper les lieux avec une activité festive, première chose. Deuxième chose, on va essayer d'organiser un débat nous-mêmes, ou je le sais trop, là, ça reste ouvert. Et c'est à nous autres, dépendant de la réaction de la Ville, on verra ce que nous autres, on va faire en deuxième partie. Mais l'idée, c'est de... On baisse pas les bras. On peut donner l'exemple de Lilo Berthelot. Moi, pendant 30 ans, Lilo Berthelot, puis souvent, Lilo Berthelot, on était à la veille d'une défaite spectaculaire. Moi-même, j'avais jeté la serviette souvent, Lilo Berthelot. Puis aujourd'hui, je me retrouve avec un miracle. Lilo Berthelot, finalement, est gagné après 30 ans. Bien, c'est peut-être la même chose qui va se passer. On ne jette jamais la serviette.
Marc Boutin, géographe et militant au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Et nous sommes de retour sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Ça coupait raide un peu. C'était Marc Boutin. Il y avait une conférence de presse ce matin au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, il va y avoir des suivis sur cette conférence de presse-là. On parle d'occupation festive, d'action. On n'a pas dévoilé aux journalistes qu'est-ce qu'il en était exactement. Évidemment, le comité se garde quelques tours dans son sac. Il faudra voir l'évolution du dossier. Mais ça va être vraiment quelque chose à suivre. Et évidemment que Voix de fait, que ce soit via son blog ou son émission de radio, va suivre le dossier. Ceci dit, c'est pas la seule chose qu'on suit. On suit aussi les niaiseries des autres journalistes. Et puis, et c'est le grand retour.
Journalistes. Ouais. En fait, c'est plus des espèces de relationnistes du libre-marché, des fois, là, c'est comme au 93-3, tout ça, ces gens-là, c'est... C'est des gens de prêtres du 21e siècle, du libre-marché.
Alors voilà, on suit les prophètes, les faux prophètes. Et justement, et François, c'est le grand retour des PPP aujourd'hui.
C'est ça, donc PPP, la parole aux populistes. Et puis cette semaine, un gros dossier pour la 93.3, là, qui ont travaillé fort sur un gros dossier de fond. Et puis là, ça va être le premier PPP éducatif.
Oui, avec The Reply on the Spot.
C'est qu'on va apprendre des choses. Vous êtes à Voix de fait.
Sylvain Bouchard.
Les stats sur les BS qui sont sortis hier. Montréal est la championne du BS au Québec.
Les tours parties ou en à l'arrière du Super C, ça c'est plein de guerres de A à Z. Sentez-vous qu'il y a deux hommes en permanence qui ont accroché un tour là, dans les attentats. Ils ont tout arraché du piton. Les hommes d'entretien ont posé des beaux boutons d'est. Il les a tous arrêtés. Et puis ce temps-là, il n'y en a plus plus tard. Nous, on paye pour ça, le beau du monde-là.
Mais, pour faire la distinction, je suis d'accord avec vous que c'est choquant quand tu donnes la charité à quelqu'un. Tu sais, tu le payes des logements, puis ils font du vandalisme.
L'aide sociale n'est pas la charité. C'est un droit.
Es-tu bon monde, là-dedans? Il y en a qui sont bien contents, ils reçoivent la charité, puis j'espère qu'ils essayent de se trouver une job. Si c'est le cas que les boutons d'ascenseur ont été arrachés, on va, notre journaliste Marc va vérifier. Dire comme il faut, là, tu donnes à manger à certains cochons. Tu le donnes à manger. Vous connaissez la suite du proverbe.
Donne à manger à un cochon, il chiera sur ton perron.
Alors, un auditeur en rajoute.
Oui, M. Bouchard, vous avez oublié nos charmants prisonniers qui coûtent un bras puis qui rapportent rien.
Puis tu regardes les prévisions démographiques et la population vieillit en plus. Donc, de plus en plus malades, de moins en moins de gens sur le marché du travail.
Le professeur François Bellan.
À mesure que les gens vieillissent, on s'est aperçu qu'il n'y a pas véritablement d'augmentation. Que l'augmentation des coûts est due à l'approche de la mort, à l'approche du décès, et que plus une personne décède jeune, plus elle coûte cher. Alors, c'est le contraire de ce que l'on pense.
La professeure Amélie Quesnel-Vallée.
Comparé aux années 70, on va atteindre dans les prochaines années une même proportion de population dépendante qu'on avait dans les années 70. La composition de la population dépendante est différente, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de personnes âgées, mais il y a également des avantages, disons, fiscaux, à avoir plus de personnes âgées comme population dépendante, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des REER, qui vont dépenser ces REER, qui payent des impôts. Et c'était pas le cas non plus des populations jeunes qui encouraient également, elles aussi, des frais en termes d'éducation et autres services sociaux.
Donc, de plus en plus malades, de moins en moins de gens sur le marché du travail.
Vous écoutez Voix de fer.
C'est lourd, mange-toi aussi vite dans l'assiette, sinon pas de dessert, en pénitence dans ta chambre.
J'aime pas ça qu'il y a dans mon assiette.
C'est bon, c'est moi qui ai fait ça pour vous autres.
On le sait, des fois, les syndicats font de la musique et des fois, c'est pas toujours concluant.
Eh bien, là, effectivement.
Il y a la CGT qui a déjà fait de la musique et eux, disons que c'est intéressant, c'est intriguant, du moins, ils sont peut-être moins plantés que la CSN. Alors, on va écouter justement une pièce de la CGT.
La CGT, c'est quand même... tu parles de la Confédération Générale du Travail en France.
Exactement. Et donc, c'est un syndicat anarcho-syndicalistes?
Non, c'est les Espagnols.
Ah, OK.
Les Français, ils étaient syndicalistes révolutionnaires au début du siècle. Ils ont été collés sur le PCF pendant une période très longue. Il y a d'ailleurs de superbes chansons, le chiffon rouge et ce genre de choses-là,
okay,
qui datent des années 50, qui sont des petits bijoux là de syndicalo-stalinisme. Mais bon...
Ben là, dans ce cas-ci, ils vont nous dire tout simplement on n'est pas content, parce qu'on parlait tantôt de la façade Saint-François-de-Paul. Est-ce qu'on est content? Non, on n'est pas content.
On n'est pas content du tout. Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires. non, du tout, du tout. Tous les chômeurs, les fringants, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents en galère, tout le monde chante.
On n'est pas contents, on n'est pas contents, on n'est pas contents, du tout, du tout. Tous les chômeurs, les fringants, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents en galère,
tout le monde chante.
Tous les jeunes en chien, les jeunes en galère, devraient savoir que c'est tous les potes à ces hier qui les ont mis dans cette situation, sans avenir, sans travail et sans pognon.
Ben, c'était de circonstance pour le prochain sujet à voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Il y a il se passe pas grand chose à Québec en ce moment, fait qu'on a décidé de passer à l'international et d'aller voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Et en France en ce moment, il y a un mouvement de sans-papiers qui prend de l'ampleur, qui fait tache d'huile depuis plus de deux mois, presque trois. Il y a une grève, une deuxième vague de grève de travailleurs sans papier, des Sud-Américains, des Asiatiques, des Africains, des Européens de l'Est. 5200 grévistes au début décembre, 1807 touchés, au moins. En tout cas, une grève qui rassemble au moins 5000 travailleurs sans papier, qui se développe depuis le mois d'octobre en France et qui prend de l'ampleur. Ce qui se passe, c'est que c'est comme on s'en doute, c'est la même chose ici, c'est la même chose partout en Occident, en fait. Dans les fonds de cale de l'économie, il y a des emplois qui sont, ma foi, pas toujours simples à pourvoir. Et il y a une main-d'œuvre corvéable à merci, exploitée et quasiment esclave, en fait, qui sont les gens, finalement, les immigrants sans papier. Les gens qui se retrouvent sans documents et qui donc peuvent pas, qui se retrouvent à la merci des patrons. Et en France, comme un peu partout en Occident, se développait un mouvement dans les années 90 pour la régularisation des gens. Il y a eu des occupations d'églises, il y a eu des grèves de la faim et tout. Et puis depuis deux ans, ils reviennent à des tactiques qui ont été développées dans les années 70. Ils disent, bon, ben vous voulez peut-être pas de nous en tant que citoyens, mais vous avez besoin de nous en tant que travailleurs. Et ils utilisent ce levier-là du fait d'être travailleurs pour finalement se mettre en grève et se positionner pour créer un mouvement de masse qui va faire des actions éclatées, qui seront pas seulement des actions dans le domaine caritatif qui sont d'autres types d'actions. Ils sortent des églises finalement pour venir vers se sortir un peu là du simple statut de victime pour venir rejoindre là, un combat aux côtés des ONG et des syndicats. Et puis là, ben en ce moment, on est rendu à une période où, en fait, avant les fêtes, il y avait 1800 entreprises qui étaient touchées d'une façon ou d'une autre en France par le mouvement de grève des sans-papiers et quelques 38 départements différents. On est rendu à une quarantaine de collectifs de sans-papiers en lutte. Et ce que les gens en font pour pas se retrouver isolés dans leur coin, c'est que quand ils tombent en grève, ils montent à Paris. et ils vont rejoindre les piquets de grève devant les filiales de leur entreprise, devant les maisons mères, sur différents sites, et ils se promènent d'un site à l'autre. C'est beaucoup des gens qui sont il y a plusieurs secteurs, mais ça a été très fort dans le secteur de la construction notamment. Ils se promènent d'un site à l'autre, ils font des occupations de chantier, ils organisent des piquets de grève un peu partout, puis ils se développent, et c'est un mouvement qui se développe et qui vise à avoir la régularisation là, d'un maximum de sans-papiers. Le mouvement, la première vague de grève, il y a 2 ans, avait quand même permis de régulariser beaucoup de monde. Déjà, après 1 mois, il y a eu 4 fois plus de travailleurs sans-papiers qui sont en grève qu'auparavant. Il y a encore plus de gens qui sont pas en grève, mais qui soutiennent le mouvement, parce qu'ils sont dans des conditions tellement précaires que s'ils se mettaient en grève, ce serait vraiment, vraiment pas évident. Et de plus en plus, en fait, les cartes sont bouleversées. Il y aura un mouvement qui décolle. Et c'est sûr que là, en ce moment, ça passe encore par les canaux syndicaux, les canaux des ONG, mais de plus en plus, les collectifs de sans-papiers s'autonomisent puis veulent, en fait, pouvoir négocier directement avec les préfectures la régularisation des gens. Et c'est sûr que le repos des fêtes, le congé des fêtes a pu faire mal à ce mouvement-là. On en avait parlé avant les fêtes sur les ondes de Sequoia, mais notamment ici Squatel, mais aussi, je pense qu'on en avait parlé un peu à voix de fait, peut-être une fois. Mais là, vive l'International des radios communautaires. Je suis allé repiquer sur Internet un reportage réalisé par l'émission Cause Toujours sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Ça, c'est une radio associative à Paris, sans pub. Une radio communautaire, finalement, un peu à l'image de Sequoia, dans le fond. Eux, ils appellent ça de radio associative. Nous, on appelle ça de radio communautaire. J'ai trouvé ça sur un portail de la coordination des radios en lutte en France, qui s'appelle sonenlutte.net, et son en lutte avec des S, là. Et puis voilà, c'est un reportage sur une grande manifestation qui a eu lieu le vendredi 9 janvier à Paris. Plus de 10 000 personnes sont descendues dans les rues, là, essentiellement des sans-papiers en grève et leur soutien pour marcher sur l'Élysée. Bon, ils ont pas pu se rendre jusqu'à l'Élysée, mais pour marcher sur l'Élysée pour que Sarkozy fasse quelque chose. Parce que là, pour l'instant, en novembre, il y a le ministère de l'Immigration qui a fait parvenir un document synthèse, donc qui est le prémisse à un futur circulaire de négociation, 6 pages, qui reprennent en gros les textes qui étaient déjà existants, un télégramme, une circulaire, la fiche technique, pas vraiment d'avancée, c'est vraiment pas ce qui est revendiqué. Donc il y a 11 syndicats et associations qui ont fait adopter par une réunion de l'ensemble des délégués des piquets de grève le 18 novembre là, leur réponse à ça, puis ils développent le mouvement et tout. Puis donc, ben voilà, sur les ondes de Sequoia à Québec, on va entendre un reportage réalisé par Cause Toujours à Paris sur cette grande manifestation. Voilà.
Ensemble, nous inaugurons ce 9 janvier 2010, le point de départ de lutte sociale, et nous sommes fiers de le dire, c'est nous, sans papiers, qui ouvrons l'année 2010 en France par la manifestation d'aujourd'hui. Et bien, nous souhaitons aussi, pour l'année 2010, des combats et des victoires pour l'ensemble des travailleurs de ce pays qui souffrent parce que ce gouvernement-là est un gouvernement au service des patrons, contre les sans-papiers, mais contre tous les travailleurs. L'année 2010, c'est l'année du combat, c'est l'année de la régularisation de tous les sans-papiers, c'est l'année de la réussite du mouvement de tous les sans-papiers en France, à l'Île-de-France et à Paris. Donc, chers camarades, à partir du mois de février, à partir de ce mois-là, les organisations, les associations, les syndicats, les partis politiques vont s'unir et combattre ce gouvernement pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers.
La manifestation d'aujourd'hui, c'est très très important. On va vers l'Élysée pour lui montrer que les sans-papiers servent à quelque chose aujourd'hui. Depuis le début d'année 2009, on a fait beaucoup de manifs. Ils nous ont promis beaucoup de choses, mais ces promesses, ils n'ont pas tenu leurs promesses, quoi, en fait.
Maintenant, on veut avoir une suite favorable pour notre demande.
10 années d'hypocrisie, 10 années de m'accuser, de porter à s'accuser. On n'a pas d'égalité, on n'a pas fraternité, on n'a pas diversité, on n'a pas de mixité, on n'a
tout le temps, tout le temps. En sortant de la maison, aller au travail, on a peur. Mais ça, on a peur, on a peur d'être arrêté en tout moment. Alors qu'on ne sont pas les voleurs ni les voyous. Rien de tout. On donne seulement un bout de papier pour travailler, pour rester tranquille. Comme vous. On aimerait bien les Français. Mais au contraire, on disait que les Français ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce qu'ils disent que non. Et ils disent qu'on n'a qu'à intégrer. Mais comment on peut intégrer dans ce pays-là? Alors qu'ils ignorent la vérité. Ils ne nous aiment pas du tout. Du tout. On cotise pendant 10 ans. Mais cette cotisation n'a rien. Et pourtant, c'est important pour les pays. Ça aide bien l'économie. Mais à nous, c'est juste ça qu'on demande.
Si on régularise tout le monde, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire?
Les Français savent ça très bien. Ça fait un grand, grand bonheur. Pourquoi on n'est pas droit de circuler comme on veut? Pourquoi on a des pertes tout le temps de sortir chez nous, aller au travail?
On est des sans-droits. On est des oubliés. On est des exploités. Et on dira non à ce gouvernement de Sarkozy. On dira non à Éric Besson. C'est fini l'exploitation patronale. C'est fini les contrôles dans les métros, c'est fini les centres de rétention. On exige ça, c'est fini les expulsions, c'est fini les charters.
On veut faire de l'immigration choisie, c'est-à-dire la France, elle voudrait être ouverte à dire j'accueille des étrangers pour se donner bonne conscience, mais en prenant les cerveaux des pays hors communauté européenne. Les gens que vous voyez ici dans la rue, ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des informaticiens, ce ne sont pas des médecins. Ce sont de simples ouvriers du bâtiment. Et on ne veut pas de ces gens-là, c'est pas bien. Les trois quarts des métiers du bâtiment ne sont pas régularisables. Il faut être presque chef d'équipe ou conducteur de travaux pour être régularisé, bien sûr. Alors évidemment, il y a des luttes. Si les luttes, elles sont bien conduites actuellement, certains vont arriver à se faire régulariser, mais c'est peu.
Le cas par cas.
Pourquoi l'Italie a, en 2005, et récemment régularisé des centaines de milliers de personnes sans papier. L'Espagne en 2005, 500 000 personnes. Et nous, la France, on ose nous sortir une circulaire du 29 novembre où il y avait déjà une discrimination par rapport au travail entre les gens de la communauté européenne et de nos anciennes colonies. Voilà, donc là, le Conseil d'État a quand même vu clair, grâce aux associations, grâce à tous ceux qui sont battus contre cette injustice, déjà pour annuler cette circulaire du mois de janvier sur la régularisation par le travail. Ceci dit, moi je voudrais demander au gouvernement où est-ce qu'il va chercher des chiffres pour dire qu'en France, on a capacité à ne régulariser 500 ou 1000 personnes. De qui se moque-t-on? C'est insupportable.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre drapeau?
Fastique. Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés. C'est une fédération nationale qui regroupe des ASTI dans toute la France, une quarantaine à peu près. Voilà. On est sur le terrain depuis une quarantaine d'années exactement aussi. On soutient surtout les luttes autonomes des sans-papiers. Pour nous, c'est très important parce que c'est pas notre lutte, c'est la leur. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ce qui, jusqu'à présent, les collectifs de sans-papiers, actuellement, ne sont plus reconnus sur le plan national. Donc, ils demandent une reconnaissance et pouvoir négocier eux-mêmes les dossiers auprès des préfectures, ce qui n'est pas le cas en ce moment. C'est surtout les organisations syndicales et les associations. Moi, je pense que le mouvement est en train de se reconstituer parce que depuis l'occupation de la rue Baudelic, et déjà au départ à la Bourse du Travail, où effectivement cette occupation a été très déconsidérée, et ils étaient au départ quatre collectifs, maintenant ils sont 14 collectifs, et aujourd'hui il y a beaucoup de collectifs de la province qui n'ont pu les rejoindre étant donné les conditions météorologiques. Autrement, ils devaient être là.
Donnez-nous les papiers pour aller travailler. Sans papiers. Donnez-nous les papiers pour aller travailler. Sans papiers. Donnez-nous les papiers pour aller travailler. Sans papiers. Voyager et voir la famille. Sans papiers. Voyager et voir la
pays.
J'ai des enfants, j'en ai 5. Je travaille pour que mes enfants, ils peuvent aller étudier, ils peuvent étudier, avoir quelque chose de quoi à vivre dans mon pays, que de venir en France.
Depuis combien de temps vous ne les avez pas vus du coup?
Depuis 11 ans, je suis là. Je suis là depuis 11 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Quand je quittais mon pays, ma dernière fille, elle avait 7 ans. Et le 2 janvier, elle a eu 18 ans. Donc vous voyez ce que ça fait. Si j'ai les papiers, j'ai vraiment envie de retourner, aller voir mes enfants. Parce que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas aujourd'hui aussi. On peut partir, mais pour revenir. Et si les enfants, c'est moi qui fais quelque chose, je trouve les petits sous que je trouve, je paye l'étude de mes enfants pour ça. Je paye l'étude de mes enfants pour qu'ils ne font pas l'immigration, pour qu'ils puissent étudier. Ils peuvent rester dans leur pays, dans mon pays, pour avoir gain de cause là-bas.
Aujourd'hui, le boulot que les Français ne veulent pas du tout faire, c'est vous qui les faites. Et puis aujourd'hui, on vous traite depuis des années comme si vraiment vous n'êtes pas du tout même des êtres humains, mais quand même les animaux de ce pays même, on les traite mieux que vous. Et que cela, vraiment, on veut que cela cesse, cela s'arrête.
Vous travaillez dans quoi?
Dans les restaurations. Voilà.
Et votre patron, ça l'embête pas de ce que vous avez pas...
Ça embête parce que les politiques n'est pas appliquées comme il faut. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. S'ils avaient dit que le patron n'a qu'à engager, de régulariser les étrangers qui travaillent dur avec eux, le patron devait faire. Mais parce que non, le gouvernement n'a pas dit la vérité. Tout ce qui implique la vérité, ils n'ont pas dit. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? On savait que les patrons sont en train de nous voler. Nos droits, ils ne sont pas les droits. Ils volent tous nos droits. On n'a pas le droit. Le gouvernement vient de dire que tout ce qui travaille pendant, je sais pas, 5 ans, qui a le contrat de 5 ans, et il devait être régularisé. Les patrons devaient remplir les papiers. Mais les patrons, ils ont peur de remplir ces papiers-là parce que le gouvernement n'est pas de la vérité de tout, du tout. Il y a certains qui sont remplis les papiers, arrivent à la préfecture, ils les rejettent. Parce qu'il y a une condition qui est restée, qui n'est pas encore appliquée dans les papiers. Et les patrons ne voulaient pas donner tous ces secrets. Voilà. Il y a un secret qui circule là-bas, nous, on ne savons pas. Les patrons savent très bien. Et une fois qu'il applique cela, il s'est fait piéger par le gouvernement. Et ils ont peur de ça.
Vous faites la grève en ce moment?
On fait la grève. On fait la grève, oui.
C'est quoi le restaurant?
Le restaurant, c'est Sodoxo. Sodoxo. On travaille tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nuit et jour. Tous les jours qu'ils nous appellent, on répond oui, oui, oui. On n'arrive même pas à dire non. Parce que nous, on savait ce qui est derrière tout ça là. Le jour de repos, il nous fait appeler en disant que voilà, on a beaucoup de ça à faire, voilà, est-ce que vous pouvez venir nous donner les trucs? Oui, mais nous, on dit toujours oui, nous sommes disponibles, tout le temps, on est disponibles. Il nous fait non, deux, trois, allez, on te dit, allez, prends tes bagages. Tu n'as aucun droit ici, là, aucun droit. Voilà, tu n'es qu'un travailleur, si on t'appelle nous les jours, tu devais bouger tes fesses. Et il nous fait dire non, trois, deux, trois fois, allez, là, c'est fini, je te virerai. Et ça a raison. Ça a raison.
Les sabatiers de Bakou restent les esclaves du tonnerre. Des Bridges, des Vinci, des multinationales qui font leur profit sur le dos de cette manœuvre. Esclaves, des anciens colonisés.
Vous travaillez dans quoi?
Vigile.
Vous faites la grève en ce moment?
Bon, non, on n'a pas en grève en ce moment parce que si on fait la grève, ils vont nous licencier carrément. On est beaucoup de sans-papiers là-bas, mais le patron ne savait pas qu'on est des sans-papiers. Donc on travaille le papier sous des cousins. Donc vous voyez quoi.
Ah, vous prenez les papiers de cousins pour pouvoir travailler?
Pour bosser, voilà. Donc le patron ne peut pas savoir qu'on est des sans-papiers, sinon ils vont nous licencier.
Votre cousin, il vous ressemble autant que ça?
Ouais, tout à fait.
Il y a beaucoup de gens comme ça qui travaillent avec des fausses identités?
Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent de fausses identités pour avoir nourrir et loger.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Aujourd'hui, essayons quand même de faire comprendre à ce gouvernement qui pense que aujourd'hui les gens qui sont sur ce territoire aujourd'hui ne méritent pas d'être là. C'est parce que nous avons été pillés chez nous.
Je m'occupe d'un collectif d'une maison qui a été expropriée à Paris, la Messie, la maison des étudiants de Côte d'Ivoire, parmi lesquels il y avait 48 sans-papiers. À l'heure d'aujourd'hui, en un an, nous avons réussi à régulariser 18 personnes, mais il y en a encore beaucoup pour lesquelles ça n'a pas abouti. Mais j'ai quand même un monsieur de 50 ans, après 9 ans de présence en France, qui a été interpellé comme ça sur la voie publique et qui est parti avec ses chaussons, son pantalon et son t-shirt. En 5 jours, les procédures administratives ont été ficelées pour l'expulser, c'est insupportable. En plus, le monsieur était malade avec des médicaments, il n'a même pas pu récupérer ses affaires personnelles. C'est nous, le comité de soutien, qui avons organisé un minimum pour qu'il retrouve sa dignité là-bas, à la capitale. 9 ans de présence, 50 ans.
Pierre par pierre et mur par mur, nous détruirons les sommes de rétorsion.
Cette année, j'ai une personne qui est restée 15 jours en mars 2009. La personne, quand il est sorti, eh bien, il fallait qu'on aille vite voir des psychologues ou des médecins pour le remettre d'aplomb, parce que les gens... Vous savez, il y a des gens qui supportent mal cette rétention et il y a énormément de détresse, de cris, de pleurs. Les gens ne dorment pas. Certains tapent contre les murs. Tout ça, nous, on ne le voit pas, les citoyens à l'extérieur. On n'est pas à l'intérieur. Mais quand vous avez côtoyé des gens qui viennent en sortir, croyez-moi, ils ne sortent pas en bonne forme. Alors on a le droit d'aller les voir. Hein. On a quand même accès à l'intérieur pour aller rendre visite aux personnes. Mais c'est insupportable. Cette privation de liberté. Surtout quand vous avez l'impression de ne pas avoir fait un crime, vous n'avez pas agressé quelqu'un. Vous êtes là pour des raisons économiques, vous travaillez tous les matins pour gagner votre paye. Et du jour au lendemain, on vous arrête dans le métro, sur le trottoir et on te dit voilà, garde à vue, 48 heures, centre de rétention.
Chers camarades, je remarque quelque chose, on dirait que les gens sont fatigués. Est-ce que vous êtes fatigués, chers camarades? Chers camarades, pourquoi vous marchez? Chers camarades, est-ce qu'il fait froid? Chers camarades, est-ce que vous voulez vos papiers? Chers camarades, vous faites des signes de victoire, vous avez gagné, chers camarades. Tout le monde comme ça, chers camarades. Nous avons tous gagné, chers camarades. C'est pour vous dire que, chers camarades, aujourd'hui, nous avons un grand jour, un grand événement, car cette cause qui ne nous accepte pas de nous recevoir. Les échos sont à l'Elysée. Les échos sont à l'Elysée. Les images sont à l'Elysée. Aujourd'hui, le mouvement des sans-papiers a gagné, chers camarades. C'est pour vous dire que, chers camarades, vous méritez d'être régularisés. Parce que vous participez à l'économie française. Parce que vous n'êtes pas des criminels. Vous n'êtes pas des bandits.
Chers camarades, on a envoyé un courrier à Sarkozy. On attend la réponse. On demande une audience. Très urgent à la lycée, les sans-papiers, nous sommes en souffrance, la situation est très difficile, on a besoin de nos papiers aujourd'hui, chers camarades, on attend la réponse de la présidente de la République.
Nous avons manifesté avec 10 000 personnes, vous méritez d'être régularisés. On demande à Sarkozy de régulariser ces gens, ces martyrs. Il est où Sarkozy? Donc, tout le monde à la République, il y a le grand concert qui nous attend. On va danser, on va lambader. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Le mouvement gagne. La musique.
Central, appel, voiture, 27. De nous apporter un sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pain, deux boudins noirs, un poulet croque et trois paquets de frites au beurre.
Hey, juste rappeler que vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3, mais le reportage que vous venez d'entendre était réalisé par l'émission Cause Toujours, Fréquence Paris Pluriel, qu'on peut trouver sur le site sonsenlutte.net, les sons et les luttes étant au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. Et de retour à notre programme régulier, on a des nouvelles d'Ukraine.
Ça, c'est la Cour d'appel de Kiev qui a reconnu coupable de génocide les dirigeants bolcheviques, dont Staline, pour avoir déclenché la grande famine de 1932-1933, qui a fait des millions de morts. C'est ça, c'est un tribunal qui a déclaré ça. Mais le tribunal, il a ordonné la fin des poursuites en raison du fait que, bon, ben, il est mort, hein, Staline, ça fait un bout. C'est ça qui a communiqué qui a été mis par les services de sécurité ukrainiens. Il déclare que presque 4 millions d'Ukrainiens ont trouvé la mort lors de ces grandes familles-là. Mais il y a certains qui avancent, ce serait 10 millions de morts. Puis depuis des années, ben, l'Ukraine elle cherche à faire reconnaître par l'ONU la grande famine de ces grandes famines-là comme un génocide du peuple ukrainien, ce à quoi s'oppose la Russie. Puis, en 1932, les autorités soviétiques avaient déclenché une campagne de collectivisation forcée au cours de laquelle elles ont réquisitionné semences, blé, farine, légumes et bétail qui avaient accueilli des paysans de la famine. Mais la Russie, elle a dit, vous se défendre que bah, c'était pas juste tuer des Ukrainiens, ça tue des Russes aussi.
Tout le monde a été servi, donc il n'y a pas de génocide.
Ouais. Ça va pour le génocide ukrainien?
Oui.
Oui, bon, ben, c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de fait. C'était Nicolas, en compagnie de...
Jenny.
Et François.
Et si jamais vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours visiter notre blog, Voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com.
Sinon, ben, on va se quitter sur une dernière pièce qu'on va sûrement faire des out, mais bon, c'est comme ça. C'est une pièce du groupe Comintern, dont un des membres du groupe était le fils de Boris Vian. Et le fils de Boris Vian était un trotskiste. Alors, il y avait un groupe de même qui jouait dans les lycées en mai 68 et qui arrêtait de jouer seulement quand la police débarquait, qui s'appelait Comintern. Alors, ça va être hommage au maire de Tours, mais pour cette fois-ci, on va appeler ça le hommage au maire La Bombe. Ciao, à la prochaine.
Amen. Oh, pas un chrétien. Mais t'es...